Je les faisais danser les nuits entières quand j'étais jeune comme vous. Je faisais danser tout le monde. On passait toutes les nuits entières.
Il était une fois de temps, dans un village, un gars et une fille qui s'entendaient. Ah, ils s'entendaient, puis à long que de s'entendaient, ben, ils ont osé de se marier.
Bonjour à vous et bienvenue dans la série L'autre tradition, ce que les musiques traditionnelles doivent aux femmes.
Comme vous l'aviez déjà remarqué, les intervenantes de ce podcast sont toutes des femmes. Seules quelques voix off sont a priori des voix d'hommes, d'ailleurs musiciens dans le large champ des musiques traditionnelles.
Dans cet épisode, qui traitera dans la joie de sororité, d'action positive et de non-mixité, il n'y aura cette fois pas de caution masculine. Le propos, encore ici assumé par des femmes, nous concerne toutes et tous. Les hommes ne sont évidemment pas exclus de ces réflexions et problématiques.
Nous entendrons dans ce quatrième épisode des exemples d'autonomie, d'organisation collective, de solidarité et d'outils mis en place pour lutter contre les discriminations et les violences sexistes, contre les inégalités dans la musique et au-delà. Entre nous, c'est la joie d'être ensemble, la joie de lutter, pas seulement contre, mais aussi pour. L'autre tradition, ce que les musiques traditionnelles doivent aux femmes. Quatrième épisode, entre nous, cette joie d'être ensemble. À la mémoire de Françoise Chapuis.
Mandit mingio bastante, metes pas da one, parles pas tout hot d'amour, pas un temps de hor. Attention din la ville, que cao está tranquilo, bruino escricado, per pud está desirado. UK las aurellos entapados, nem podi pas cumpli, tout los ordis qui mandat. UK suyo tutto desformado, nem podi pas acabe, de la cao york qui mandunat. UK las aurellos entapados, nem podi pas cumpli, tout los ordis qui mandat. UK suyo tutto desformado, nem podi pas acabe, de la cao york qui mandunat.
Pour la petite histoire drôle, il faut venir nous voir en concert, je pense. Parce qu'en plus, l'explication de comment on s'est rencontrés change à chaque concert. Donc, il faut venir à tous les concerts.
Maïder Martini.
Mais sinon, pour de vrai, on s'est rencontrés parce que d'abord, t'es venue à Bayonne, Lolita.
Lolita Del Monteil Aïral.
Pendant les fêtes, c'était un moment, moi, là où j'ai appris vraiment à jouer sur scène, c'était là.
Sauf qu'en fait, quand on est venu, toi, t'étais pas là. Tout le monde nous parlait de cette Maïder. Et en plus, je dormais dans sa chambre. Il y avait plein de trucs d'accordéon partout. Et il y avait le mystère de se dire... Mais c'est qui cette meuf? Elle a l'air trop bien, mais je la connais pas. C'est un fantôme. Est-ce qu'elle existe vraiment? Je sais pas.
Et après, bah, tu t'es rendu compte que j'existais vraiment du coup quand t'es venue à Toulouse prendre un cours de pandero. Toi, tu m'as appris aussi en chant. Un petit peu plus tard, je t'ai accompagnée à ton DEM. Mmh.
T'as été ma prof d'accordéon au DEM, conservatoire occitan.
C'est juste que
des fandango, on était trop contents. C'était super.
C'est juste que j'avais fait le DEM avant vous et c'est tombé comme ça. C'est plus une histoire de chronologie que de niveau, finalement.
Si ne t'excuse pas d'avoir été notre prof. Voyons.
Après, t'es venue dans mon projet pédagogique de DE. J'avais appris le pandero à plein d'adultes. On avait fait un duo déjà à l'époque.
Ouais.
Après, moi, je suis partie au Québec.
Tu nous as programmé avec la Forcelle au Québec. On est venu voir où tu travaillais. Un peu sur plusieurs années, ça s'est étalé. On s'est rencontrés à plein d'endroits. Et puis...
En fait, on s'est un peu cherché. Et puis, on s'est trouvé.
On a fait que ça, se chercher.
On a fait que ça.
Et un jour, on a provoqué le trouvage.
Et en fait, ce qui est génial, c'est que juste avant de partir au Québec, et je dis à Lolita... T'aimerais bien faire un duo avec moi? Et puis elle fait, ce serait un plaisir, mais je peux pas, j'ai trop de trucs. Je demande d'accord. La vie a fait que je suis partie au Québec 3 ans et demi. Au moment où j'ai voulu rentrer en France, quoi, elle me propose de faire un duo. Sauf qu'en fait, elle se souvenait pas que je lui avais proposé de faire un duo avec elle 4 ans auparavant.
Pas du tout. Ouais.
Donc c'est génial, en fait, on s'est spontanément proposé de faire un duo mutuellement. Et ben maintenant, on n'arrête pas de jouer au ping-pong verbalement, comme on est en train de faire d'ailleurs.
Voilà. Je crois que j'ai eu un parcours de l'autonomie, on pourrait appeler ça, à la fois par inertie propre et aussi à la fois, du fait de ma condition de femme. J'ai l'impression d'être vraiment passée, en gros, de la potiche du groupe qui est là pour faire joli à celle qui a sa boîte de prod et qui travaille en sororité avec ses potes et qui monte son projet. Mais ça a été super progressif, c'est-à-dire qu'il y a eu... je suis vraiment passée par plusieurs étapes, donc j'ai eu plusieurs sortes de collectifs. Et je pense, à la fois, il y avait cette histoire de pas se sentir légitime ou pas compétente pour pouvoir prendre en main des aspects de la production et tout. À la fois, pas la nécessité de le faire parce qu'il y en a d'autres qui le font et qui sont déjà là depuis plus longtemps que toi. En plus, ils savent faire parce que c'est des mecs et qu'ils sont entraînés à faire ça. Tu vois, que ce soit prendre le son, mixer, tout ça. Et que j'avoue aussi, je crois qu'il y a eu un truc où je me suis un peu complu là-dedans. C'était pratique, en fait, d'avoir des gens qui prennent tout ça sur leur épaule. Et du coup, moi, j'avais pas à le faire. Et en fait, voilà, avec le Covid, les changements et la prise de conscience aussi un peu féministe, j'ai commencé à mettre de plus en plus la main à la pâte dans tout le processus de production, tout ça. Et là, aujourd'hui, donc j'ai monté ma boîte de prod, qui est vraiment un petit truc. Là, ça y est, j'en suis à un moment où je suis un peu propriétaire, enfin, pas propriétaire, c'est pas du tout le mot, mais en possession de mes moyens de production et d'action. Voilà, la vie a fait que j'ai eu ce parcours d'autonomie, et là, maintenant, aujourd'hui, j'en suis là. Même si, des fois, c'est épuisant, parce que franchement, t'es au four et moulin, t'es partout, et j'ai vraiment l'impression d'être une femme d'affaires, des fois, quoi. Heureusement qu'il y a Maïder, parce que pour le coup, je me sens en duo avec toi, en fait, sur ce truc-là, quoi. Sur ce processus d'autonomisation, hein. Je me sens vraiment en duo avec toi. Je suis hyper contente que ça m'arrive maintenant, après ces années de lecture féministe et de prise de conscience, parce que du coup, voilà, on essaie de faire ça vraiment ensemble avec Maïder, en respect et en liberté surtout. Je trouve ça hyper chouette qu'on se met pas la pression, on se met pas de... Je trouve que c'est fait avec de l'intelligence émotionnelle et psychologique, et donc j'en suis hyper contente.
Et moi, j'ai fait une formation à Montréal de technique, de son. En fait, j'étais tout le temps très gênée. Je sais pas pourquoi. Enfin, je savais pas pourquoi à l'époque. Mais c'est parce qu'il y avait un nombre beaucoup plus important de d'hommes. Et en plus, ça serait que ça, ce serait pas grave. Mais en fait, il y avait une espèce de... Comment dire ? On se sentait nunuche, quoi. Les femmes se sentaient plutôt nunuche. Dès qu'il fallait, c'était sur la base du volontariat, d'essayer les exercices. Il fallait tous passer, mais il fallait le faire quand nous, on voulait. Et bien, les femmes, on se retrouvait les dernières à le faire à chaque fois. Et vraiment, ce truc-là de la technique, c'est compliqué, c'est pour les hommes. C'était vraiment une construction mentale que moi, je me faisais dans ma tête. Je pense que c'était pas directement lié aux hommes qui étaient là dans la formation en tant qu'individu, mais c'était en tant que système, que... Il fallait que je fasse mes preuves, en fait. Et c'était beaucoup d'efforts. C'était plus d'efforts qu'on me demandait, finalement, qu'aux hommes.
Bah, c'est cet écart entre facilité à se sentir expert, entre guillemets, peut-être, ou à se sentir légitime, qui vient plus facilement chez les hommes. Et là, je vais pas refaire l'histoire des cultures masculines, etc. Mais voilà, on sait pourquoi. C'est une histoire de culture masculine. Et le fait à pas se sentir légitime. Et en fait, c'est con, mais c'est pas la faute des hommes, c'est pas la faute des femmes, mais c'est juste que quand il y a ces deux choses-là qui sont au même endroit, ça peut pas marcher. Il y a forcément il y a un système qui se met en place. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer des endroits non mixtes où juste on abolit l'espace d'un instant, ce truc-là, pour que les choses puissent se faire différemment. Et après, on se remet ensemble et on rebosse ensemble, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment qu'il y ait ça, sinon enfin, à mon avis et de mon expérience, ça bouge pas.
Après, il y a des groupes où j'étais pas leaduse, mais où j'ai senti que ma parole avait moins de poids en tant que femme, ou perçue en tant que femme en tout cas, et donc que j'avais pas en fait de poids, enfin espèce de si un homme disait la même chose que moi juste après, tout de suite c'était validé et c'était entendu surtout. Moi, j'ai dû faire un travail sur moi parce que je sens que je suis une compositrice, presque des fois plus qu'une interprète, ça dépend des moments. Mais je me heurtais à de l'auto-sabotage, des choses comme ça, et j'ai constaté que c'était relié à cette problématique de la femme qui compose, en fait, tout simplement. Et je m'autorisais pas à le faire, je sais pas, j'avais vraiment des forces contraires en moi. Et pour ça, je continue encore de lutter contre cet auto-sabotage. Justement, en travaillant avec des femmes qui m'inspirent, comme Lolita, parce que je sens qu'il y a... Je vois en elles, en fait, des choses de moi. Et, Et je suis fan de Lolita, de son travail de compositrice. C'est une super musicienne, elle a beaucoup de goût. Elle a quelque chose de très fin et voilà, ça m'inspire beaucoup. Donc en travaillant avec des femmes, et en plus que, dont je suis fan, ça m'a beaucoup aidée.
Embrasse-moi chérie.
Qu'est-ce qui nous arrive?
En 2017, le mouvement hashtag MeToo prend de l'ampleur et libère la parole des victimes d'agressions sexuelles et sexistes jusqu'à la création d'un hashtag MusicToo, spécifique au métier de la musique, un monde majoritairement dominé par les hommes, particulièrement inégalitaire, violent et dangereux pour les femmes. La parole y est donc d'autant plus difficile à prendre.
Pour ce podcast, les femmes du secteur musical nous ont fait part de leur quotidien au travail. Et quand elles ne partageaient pas de faits de violence et de discrimination, nous y apprenions que travailler avec des hommes pouvait aussi alourdir leur charge mentale, fragiliser leur légitimité et étouffer leur potentiel artistique.
Travailler entre musiciennes crée alors un espace autre. Et cette possibilité ne peut se réduire à une réaction ou à un choix par défaut. Depuis toujours, des femmes aiment à jouer ensemble en toute égalité et solidarité.
Alors dans le milieu maritime, c'est à mourir de rire.
Valérie
Humbert. On peut en écrire un livre avec Brigitte, en fait, sur les anecdotes qui nous arrivent sur ce côté de deux bonnes femmes contre des chorales entières de tricoriers. Donc oui, là, c'est... Mais alors nous, on en rit tellement, on en parle après, et ça nous permet d'en parler avec des gens, parce que les gens nous disent oh, « mais vous supportez ça ?» Alors ils disent « ouais, parce qu'en fait, nous, on le prend tout de suite à la rigolade, et on leur renvoie tout de suite leur image, à notre manière, soit en chantant. Des fois, il y a les clins d'œil qui arrivent sur scène, soit carrément en le verbalisant. Moi, j'ai pas peur de dire sur scène que quand on est arrivé, il s'est passé telle chose. Ça, toutes les deux, on n'a pas peur de le dire. Mais c'est pas avec une conscience en se disant on va aller défendre ça. C'est parce que c'est dans nous. Voilà. Pour moi, voilà, on est deux bonnes femmes. On s'appelle les commères. C'est les dames de nage, mais on dit toujours ma commère déjà. Toujours. Comment va ta commère? Les gens, les premières fois qu'on dit ça, ça les fait rigoler.
C'était une bergère.
Et là, 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 tout le monde au pas, les filles et les gars, les femmes, s'il y en a, là, 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 là.
On se désigne comme ça, en fait.
Marine Lavigne.
Stérène, c'est ma commère. Et c'est pas péjoratif, c'est juste le féminin de compère, quoi. C'est un mot qui est très employé dans le milieu trad, surtout entre chanteuses.
Ça fait quelques années maintenant que
Stérène Diridon.
On se connaît avec Marine, on s'est rencontrés au lycée, donc ça fait 10 ans, 10 ans maintenant, et ça fait 4 ans qu'on chante ensemble, donc on est amis et commères.
Commère, oui, vraiment, c'est un lien un peu entre presque, ouais, c'est ça, plutôt familial, une sorte de sororité en fait aussi qui est transcrit dans ce mot-là. C'est collègue, un peu sœur et un peu amie aussi. C'est une espèce de, c'est un lien particulier en fait. C'est un autre lien que l'amitié ou que le rapport entre collègues. Quoi.
J'ai senti qu'il fallait que je monte vraiment, que je construise un groupe qui me tenait vraiment profondément à cœur.
Périne Bourrel.
Je crois que c'est en rêve que c'est arrivé. C'est le nom de Mana est arrivé. Et je me suis dit, mais c'est avec Mana que je dois monter un groupe. Et ça a été le début de l'histoire du duo violonneuse. Et ce groupe de violonneuses, ça a été vraiment le début d'un tournant, en fait. Oui, ça m'a apporté beaucoup parce que ça m'a donné confiance sur ce qu'on pouvait faire. Je pense que j'étais trop intimidée de faire ça avec un homme. Et j'ai senti que je serais trop intimidée, que je me construirais pas assez dans un duo comme ça. Et j'ai senti qu'avec Mana, on était à une place égale et qu'on se construirait toutes les deux. Musicalement, je parle vraiment. Et je crois que c'était assez juste. Hein. Enfin, je crois que c'est ce qui s'est passé.
Thank you.
comment ça se passe quand on est une femme musicienne. C'est marrant, parce que quand t'as dit la question, j'ai eu plein de... Ah oui, ça.
Caroline Dufaux.
Bon, déjà, nous, Coucagne, quand on a eu besoin d'une structure pour porter le projet, on s'est tourné vers Art Brut, donc la structure fondée par Artus, où il y a beaucoup d'hommes. Et donc, on est devenus un peu les artistes féminines d'Art Brut. Bon, là, maintenant, on est parti d'Art Brut pour monter notre compagnie d'Ardaï avec Coucagne. Puis bon, il y a Maud hein, qui est encore dans Art Brut, donc je pense que ça va se féminiser à mesure, quoi. Dans notre structuration et puis dans nos rencontres aussi avec les personnes avec qui on a fait les disques, dès que tu es accueilli sur un lieu par l'équipe d'accueil technique, par les personnes qui programment, enfin voilà, il y a beaucoup d'hommes, hein, énormément d'hommes, quoi. Après, comment ça se passe pour nous concrètement, en tant que femme, comme dans la vie à l'extérieur, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, on est dans une société systémiquement patriarcale, où quand ça branche des câbles, et quand ça pousse des boutons et que ça soulève des trucs très lourds, c'est des hommes. Quand ça décide, quand ça fait des choix, quand ça passe à l'action, c'est beaucoup d'hommes. Ouais, on a évolué avec Lila vraiment en binôme et en trio, entre femmes en fait. Nos décisions artistiques, on les a prises entre femmes. Mais c'est vrai qu'on a fait nos disques avec des hommes. Et bon voilà, on a fait un peu des va-et-vient et tout ça. Mais on a quand même tenu depuis le départ à ne pas déléguer par exemple la direction artistique ou les arrangements. Et ça a pris le temps que ça a pris. Parce que quand on réécoute l'EP du début, on se dit « Oh là là, c'est vrai, c'est mignon, quoi. » On sent qu'on est ultra volontaire, mais que, voilà, on démarrait, en fait. On démarrait la musique et la professionnalisation. Et là, ça va, on se sent un peu plus légitime, tu vois. Mais en tout cas, on a eu peut-être ce nez, cette intuition, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a... tenu à ce que ce soit nous qui fassions les choses et sans céder à la tentation de le confier à un homme qui était, je sais pas moi, je pense à Mathéo Baudouin avec qui on a enregistré le premier EP, Raoul Refri avec qui on a fait le Puput par exemple, le dernier disque. C'est des gens avec qui on a collaboré, qui ont aussi mis leurs pattes, sans doute, tu vois, dans notre musique. Mais quand même, on est bien tranquille avec l'idée que c'est nous qui l'avons fabriquée, quoi, cette musique-là. C'est nous qui l'interprétons et qui la portons.
Nous aussi, ce qui nous est arrivé, c'était quand même aussi vraiment par rapport au féminisme ambiant de là.
Lila Fries.
Des années 15. Je pense que c'est aussi ça. C'est un tout, tu vois. On fait avec l'héritage, on fait avec et avec ce qui se passe et je pense quand même on a la chance en ce moment d'avoir plus accès, je pense, à des pensées féministes et à des ressources féministes. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on était baignés quelque part là-dedans et que le fait de travailler entre meufs, de se poser ces questions-là, pour moi c'est comme si la création et aussi la représentation sur scène, ça accélère cette prise de position. Peut-être que si j'avais pas fait ça, je me serais pas posé ces questions aussi vite. Enfin, en tout cas, il y avait une urgence à ça. Et donc ça, je pense que c'est lié au fait qu'on se retrouve là, sur scène, à devoir dire qui on est, comment on est, comment on le fait, choisir quels mots nous définissent, tout ça. Ça, c'est quand même des expériences fortes qui font que t'es obligé de te situer et que c'est ça qui est bon. Et que c'est ça qui est bon. Et qu'après, tu vois, moi, je pense quand même à la mal coiffée. Enfin, tu vois aussi de voir des chœurs de femmes qui quand même étaient déjà... Enfin, je me souviens de l'intro de la mal coiffée à la manif occitane de je sais pas quelle année, je sais plus, mais bon, moi j'étais adolescente. Elle disait partout dans le monde, il y a des femmes bonnes à marier. Enfin bon, voilà, en gros, elles avaient détourné ce truc-là des femmes à marier pour dire, genre bon, on arrête avec ça, on arrête définitivement avec ça. Donc tu vois, je veux dire, on n'est pas du tout en train d'inventer quelque chose de nouveau. Mais pour moi, on prend part. Et aussi, on prend part avec le féminisme qui nous entoure aujourd'hui, quoi. Et qui est assez puissant.
La costure, 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 la cost
La vague féministe des années 2015 traverse différents mondes sociaux et culturels, abreuve les productions intellectuelles, renouvelle la recherche, l'action et la création artistique. Mais pouvons-nous alors encore dire, comme le sociologue Alfred Wilner, il y a 20 ans, que dans la musique, les femmes montent un escalator en train de descendre? Écoutons des programmatrices du champ des musiques actuelles et traditionnelles sur les aspects pragmatiques de l'égalité professionnelle, sur ce que certains appellent la discrimination positive et que nous préférons appeler plus justement action positive. Programmatrices et musiciennes partagent ici leur expertise sur l'intégration de cette problématique dans leur politique artistique ou leur ressenti vis-à-vis de ces dispositifs, tout en expérimentant de nouveaux outils d'entraide professionnelle entre femmes.
Ça s'appelle WA. Et c'est un programme de mentorat féminin dans les musiques actuelles. Parce que moi, franchement, ça a été une expérience merveilleuse. Je ne peux pas dire d'autres mots.
Marie-Josée Justamont, ancienne directrice et présidente du festival Les Suds à Arles.
Et nous étions 28 femmes, dont 14 mentors et 14 mentorées. D'un peu toutes les régions de France, là aussi. Beaucoup, beaucoup de personnes travaillant dans les SMAC. Quelques responsables directrices de structures, mais très peu, puisqu'encore une fois, c'est un domaine où il y en a peu. Il y a eu des moments de coaching, tout simplement. Il y a eu des moments où nous avons fait de la communication non violente. Il y a des moments où nous avons travaillé sur le syndrome de l'imposteur, par exemple, parce que ça nous habite, nous les femmes, c'est bien connu. Franchement, ça a été assez époustouflant ce qui s'est passé entre nous toutes, alors mentor, mentoré, d'accord, mais encore plus, le groupe lui-même a très bien fonctionné, et au fur et à mesure des sessions de mieux en mieux, et la dernière était très émouvante. Quand j'entends certains, même ministres ou autres, s'insurger contre le travail en non-mixité, ben non, il y a des choses qui ne sont possibles qu'en non-mixité. Parce que il y a du travail à faire, il y a du travail à faire sur nous, tout simplement. Oui, on a des choses à surmonter, parce que, qu'on le veuille ou non, on a vécu des formes de domination, et il faut pas s'y habituer, il faut en être conscient et en sortir. Et je l'ai vécu de tas de manières, parfois violentes, parce que vraiment le machisme dans les musiques actuelles, il est très fort. Je me suis pris des réflexions, mais d'une violence inouïe, quoi. Surtout quand ça commençait à marcher fort. Bien sûr, parce que tant que ça pouvait être un petit événement, ça ne les gênait pas trop, quoi. Non, ça a été violent. Puis il y a beaucoup d'initiatives pour faire en sorte que ça évolue, et on espère bien que ça continuera à évoluer, que ça ne sera pas toujours un milieu sexiste. Dans les musiques du monde, c'est vrai que je n'ai pas du tout trouvé cet état d'esprit-là. Parce que je crois que justement, c'est les musiques des cultures minorisées, qu'on le veuille ou non, qu'elles soient d'origine immigrée ou qu'elles soient de nos régions. Je ne dis pas que c'est un milieu de rêve, c'est pas vrai. Mais en tout cas, non, moi j'ai trouvé vraiment le moyen de m'y épanouir, des formes d'intelligence, de partage, de passion commune. Enfin, c'est passion partagée, c'est valeur partagée, c'est fort. Ça, je ne suis pas sûre que ça existe tant que ça dans la culture, hein, au bout du compte. Tout simplement des valeurs d'humanisme. Hein. C'est dire même que toutes les femmes et tous les hommes ont la même valeur, ont droit à la même dignité, ont droit au respect de leur culture et au moyen de pouvoir l'exprimer. C'est pas très original, mais c'est important de le dire, de le formuler, de donner les moyens aux artistes de le vivre aussi.
C'est un milieu où on se pose beaucoup de questions politiques sur comment on fait les choses.
Marie Delorme, salariée du CMTRA et coordinatrice du festival Les Jeudis des Musiques du Monde à Lyon.
On se les pose déjà sur c'est quoi de la musique traditionnelle, sur l'appropriation culturelle, qui va monter sur scène, trouver un équilibre sur quand on fait les Jeudis des Musiques du Monde, par exemple, c'est des soirées thématiques, on peut avoir une soirée italienne, la semaine d'après une soirée musique turque, faut qu'il y ait des musiques du domaine français, mais il faut aussi qu'il y ait des domaines extra-européennes, il faut qu'il y ait des musiques à danser, mais aussi des musiques de concert. On se pose beaucoup de questions quand on fait de la programmation. Il y a la question, on va dire, sociétale ou politique, elle est vraiment imbriquée avec la question artistique. C'est bizarre d'ailleurs que la question des femmes, elle soit pas arrivée plus tôt, en fait. J'ai l'impression que c'est maintenant que ça se passe. Est-ce que c'est parce que dans les associations, les boîtes de prod, les salles de spectacle, même si les femmes, elles n'ont pas les postes de direction, elles sont beaucoup présentes
dans les salariés de ces équipes-là. Et que du coup, ça y est, elles se rendent compte qu'il y a un petit problème et elles le disent. Moi, j'adore d'ailleurs me dire qu'en bal, trad, je vois plein d'hommes danser, ce que je vois pas forcément quand je vais dans d'autres milieux. Donc là, je trouve que c'est bien partagé dans ceux qui dansent. Par contre, sur scène ou quand on va faire des journées et savoir qui va intervenir à cette table ronde-là ou celle-ci, là, pour le coup, c'est très difficile d'avoir un équilibre. Soit quand on l'organise, soit quand on y assiste, ben on voit bien qu'on est dans plein d'impasses et qu'on n'arrive pas à les résoudre tout seul, quoi. Au CNTRA, par exemple, les salariés, on n'est que des filles. Mais dans notre CA, c'est beaucoup d'hommes. Et du coup, de se dire, en fait, nous, on fait partie de ce jeu-là. Là, il faut qu'on change les règles aussi de l'intérieur. Donc, en essayant d'avoir dans notre CA plus de femmes. Donc, on sait qu'elles ne viennent pas toutes seules. Il faut aller les chercher une par une et les convaincre que si, c'est... On va faire en sorte que ça soit pas trop prenant, viens. Parce que elles sont moins nombreuses, les femmes peut-être musiciennes ou dans la transmission, dans, en tout cas qu'on connaît, donc elles sont forcément beaucoup plus sollicitées aussi. Les hommes, ils ont compris qu'il fallait se poser la question et laisser la place, déjà. Alors qu'avant, c'était peut-être porté que par des femmes, alors qu'aujourd'hui, par exemple, dans ma commission de programmation, les hommes, autant que les femmes, se posent cette question-là et il n'y a pas de lézard, quoi. Que quand je parle avec des collègues d'autres structures, c'est assez partagé, effectivement. Et donc, quand on choisit les groupes, on s'interroge tout le temps sur est-ce qu'il y a des femmes musiciennes dans le groupe ? Est-ce qu'elles sont au lead ? Est-ce qu'il n'y a que des femmes au chant ? Est-ce qu'il y en a qui sont instrumentistes ? Ou quand on va faire la sélection régionale des musiques du monde, donc ce dispositif qui accompagne trois groupes par an, maintenant on fait en sorte que dans le jury il y ait des femmes autant que d'hommes et que dans les groupes qu'on va choisir il y ait une présence féminine. Mais si on n'y fait pas attention, en fait, très rapidement on se retrouve avec des groupes où il n'y a que des hommes, quoi. Vu qu'on en choisit 3 sur 60 candidatures ou plus, en fait, ça va, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas le choix. On a la possibilité de mettre un coup de projecteur sur tel projet ou tel autre.
Les politiques culturelles en faveur de l'égalité professionnelle, qui pour nous acteurs structures culturelles.
Perrine Lagru, directrice et programmatrice de la grande boutique à Langonnette.
On doit maintenant clairement... atteindre certains objectifs et vraiment prendre en considération dans la manière dont on travaille, d'encourager la présence des femmes sur scène, mais pas que sur scène, c'est aussi dans les actions culturelles qu'on développe nous aussi tout au long de l'année. C'est vraiment un paramètre qui est devenu crucial quand dans nos tableurs de programmation, il y a systématiquement maintenant la colonne homme-femme et on fait le total à la fin. Combien j'ai d'hommes, combien j'ai de femmes, quel pourcentage de femmes dans ma programmation. C'est devenu incontournable. Clairement, le fait qu'effectivement des programmations se construisent en prenant en compte des pourcentages, des quotas et que normalement une programmation doit être complètement liée libre, être porté par l'artistique et pas par des questions plus politiques. C'est un discours que je peux entendre, mais en même temps, je serais curieuse qu'il y ait un seul programmateur ou une seule programmatrice qui soit complètement libre de faire la programmation qu'il a uniquement envie, lui ou elle. On a évidemment plein de paramètres. Celui-là, c'en est qu'un parmi d'autres. On est dans des stratégies pour faire entrer nos publics dans nos salles. On travaille dans des réseaux, donc il y a aussi défendre les projets des structures complices, amis. Donc bien sûr qu'une programmation, elle n'est pas évidemment pas que portée par l'artistique. Et je trouve ça malheureux que ça n'a jamais posé de problème à personne, mais que le quota de femmes, ça soit un problème, quoi. Ça, c'est un vrai questionnement. Et c'est vrai que c'est venu plutôt de musiciens hommes qui ont peur, je pense, de se faire mettre sur la touche. Et c'est vrai qu'il y a des arbitrages qui sont faits maintenant dans nos programmations où des groupes uniquement masculins sont très concurrentiels. Ça, ça va être une réalité. Et effectivement. Mais il y aura aussi plus des femmes à avoir sans doute plus de boulot qu'elles n'en avaient. Donc, je suis désolée pour eux, mais voilà, c'est comme ça qu'il va falloir réfléchir maintenant.
Je pense que ça les oblige à faire gaffe, quand même. Et que mes collègues...
Noélie Niolou.
Peut-être ont plus de dates. Parce que, justement, ça se voit maintenant. Enfin, j'espère que ça se voit quand il n'y a pas d'intérêt qui est porté à ces questions-là. Probablement que ça ouvre la voie de la professionnalisation à plein de femmes qui attendent, comme moi, hein, je ne suis pas la seule, hein, qui disent « Bon, moi, je travaille, je fais plein de projets, je fais plein de projets bénévoles, je fais beaucoup de bandes pour répéter avec plein de gens et il ne se passe rien. Bah, » peut-être que maintenant... ces scènes-là vont s'ouvrir. Je crois que c'est ça, l'impact. Mais ça oblige beaucoup à en parler et à justifier. Ça, c'est un tout petit peu fatigant. Mais c'est intéressant aussi. Fatigant, mais intéressant.
En ce moment-là, c'est assez récent. J'ai l'impression qu'on fait appel à moi dans des projets où que je suis programmée.
Perrine Bourrel.
Parce que je suis une femme. Je ne suis pas dupe. Je vois bien que c'est parce que maintenant, certains programmateurs se sentent obligés de programmer plus de femmes. Certains groupes ont la conscience qu'il y a des femmes musiciennes et qu'un groupe que de mecs, alors que tu as des musiciennes qui font un travail équivalent, c'est de plus en plus craignos de voir ça, en fait. Moi, là, c'est ce que je sens en ce moment, en tout cas. Le fait que je sois une femme me fait plus jouer. Dans des endroits où on est bien payé, là, je parle d'endroits, tu vois, institutionnels, officiels, des gros festivals. Alors que les endroits underground, partout où j'ai pu jouer, là, ça change pas. Les gens y programmés, enfin, ça va pas changer.
Pour moi, c'est pas la solution que de se priver de ce travail-là. Au nom de « j'ai pas envie de servir de caution féminine ».
Pauline Villerval.
J'ai essayé d'en discuter, mais c'est parfois très fatigant. Et notamment quand on est la seule femme d'un groupe. Franchement, il y a tant de situations dans lesquelles j'aurais envie de discuter de choses avec mes collègues masculins et je me tais. Je suis pas sûre que ce soit un manque de courage, je me dis que c'est peut-être juste pragmatique. Des fois, c'est trop loin, quoi. Ils sont trop loin dans la perception, dans le manque d'empathie. Il y a une telle distance, quoi. C'est un peu dur d'expliquer. Enfin, j'ai l'impression que c'est une montagne, quoi, à expliquer.
En me disant qu'on partait tellement de loin d'être à ce point en minorité quand on était une femme instrumentiste que...
Charlotte Espiosas.
Que quelque part, c'était déjà légitime juste de vouloir prendre cette place-là et que je la prenais juste des fois pour qu'il y ait une femme sur scène dans un festival où il y a 10 groupes programmés. Et où, en fait, peut-être... Peut-être je suis pas la plus légitime dans cette musique ou sur cet instrument-là, mais en tout cas, au moins je servirai à ça, quoi. Ouais, pour les générations après, quoi. De se dire, ok, ça existe, on peut le faire autrement et tout ça, mais en tout cas, c'est possible.
Je trouverais ça dommage que les femmes qui ont beaucoup de boulot, justement, en arrivent à se dire que c'est uniquement parce que c'est des femmes ou que les hommes qui voient justement toutes ces femmes sursollicitées se disent que c'est uniquement parce que c'est des femmes. Parce qu'il y a quand même un moment où il faut être sur scène et jouer quelque chose. Et ça, bon, c'est de la musique, quoi. C'est bien au-delà des questions hommes-femmes. Il faut être là et il faut chanter ou il faut jouer, mais il y a des gens devant et ils écoutent.
Penser que ça va se faire tout seul, c'est pas vrai.
Hyacinthe Ravet, sociologue et musicologue.
Souvent, les musiciens et les musiciennes m'ont dit « je veux être reconnue comme musicien à part entière ». Et évidemment, et bien sûr, c'est une quête de légitimité qui est absolument essentielle. Mais si ça passe par reconnaître que l'accès a été plus difficile dans le passé, qu'on nous a pas donné les mêmes moyens d'apprendre, qu'on nous a pas donné les mêmes possibilités de se faire entendre sur une scène, c'est important de le mettre en lumière pour un jour ensuite pouvoir mieux le dépasser. Pour moi, il est vraiment important aujourd'hui de se dire qu'en fait, on a un but qui est d'aller vers l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment dans le milieu de la musique, mais ailleurs aussi, dans le monde social en général, et qu'on peut essayer de se donner des outils pour y parvenir. Et donc, ces dispositifs d'action positive, pour moi, sont vraiment des outils. À terme, l'objectif, c'est qu'on n'ait plus besoin d'outils et que ça soit une évidence que femmes et hommes ont droit d'œuvrer à part égale au sein de notre société, en musique, et voilà. Malgré tout, ce n'est pas si simple. Alors, c'est la philosophe Geneviève Fraisse qui disait que l'égalité, ça ne pousse pas comme l'herbe verte. Je trouve que c'est une jolie image. Ça ne pousse pas tout seul, ça ne se fait pas tout seul. Quand j'ai commencé à travailler, je vous disais, à la fin des années 1990, deuxième moitié des années 90, sur ces questions, on me disait, mais c'est en cours, mais ça va venir, les choses bougent. Et ça ne s'est pas fait comme ça non plus en trois secondes. Il y en a un peu plus depuis une dizaine d'années, oui, mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, pour pouvoir avancer et avancer plus vite, il faut avoir des outils. Parce qu'on voit aussi qu'il y a des situations dans lesquelles le mouvement, il n'est pas, c'est pas le mouvement de l'histoire, hein, comme on nous dit, ça devrait se faire de manière évidente et tout seul, et c'est le chemin de l'histoire. Ben non, c'est pas si simple pour plein de situations. On l'a vu à propos de l'avortement récemment, etc. Bien que l'histoire, elle n'est pas voilà, elle n'est pas inéluctable vers tel endroit et telle fin précisément, mais que les choses, les phénomènes sont réversibles. Donc à partir de là, c'est important de se donner des outils pour parvenir à, pour essayer de faire accélérer un petit peu les choses. C'est pour ça que la dimension institutionnelle, elle me semble aussi importante. D'ancrer les choses dans les murs, les mettre en place par des chartes dont on peut se réclamer, de mettre en place vraiment des dispositifs aussi de prise en charge de situations complexes, de l'inscrire dans la loi, etc. C'est autant d'outils pour éviter de revenir le plus possible en arrière à un moment ou à un autre, à la faveur de contextes politiques qui peuvent être défavorables sur ces questions.
L'objectif d'une égalité au travail ne peut donc aboutir sans outils d'action positive. L'action positive est le terme juste qui désigne un ensemble de mesures politiques visant à réduire les discriminations. Lorsque les pouvoirs publics emploient le triste oxymore « discrimination positive », ils font le jeu des adversaires de la parité. Aucune discrimination ne saurait être positive. L'action positive est justement un outil antidiscriminatoire. Cependant, elle fait débat dans tous les domaines, y compris celui de la musique. Elle fait débat également entre nous, femmes musiciennes, notamment à cause des maladresses générées à notre encontre dans ce contexte de transformation institutionnelle et structurelle.
Caneli, piccinella, piccinella, margutu. Caneli, piccinella, piccinella, margutu. Lodiri, lodiru, lodiretto, la la leiro. Lodiri, lodiru, lodiretto, la la la.
Même si l'on peut entendre qu'il y a de plus en plus de femmes dans le secteur musical, elles demeurent encore aujourd'hui largement minoritaires. Le géographe Yves Rébeau parle d'un phénomène général de déni des chiffres et d'une occultation des pratiques réelles. Même très actives, même un petit peu plus visibles, les femmes musiciennes doivent encore lutter pour l'égalité, s'emparer d'outils de visibilisation et même en créer de nouveaux.
Écoutons Lucie Dessium et Camille Lenné au sujet de la création du réseau Antisexisme Trad
et d'un annuaire en ligne de femmes et personnes appartenant à des minorités de genre dans le domaine des musiques traditionnelles.
Anaïs Vaillant, vous avez découvert que vous étiez une femme?
L'amour est en fin de bohème.
Ce sera pour le bêtisier, ça.
Ouais, c'est ça, merci. La porte. La porte.
Bah, je sais pas, on va peut-être pas parler de tout ce que je fais dans la life. On peut peut-être juste dire que je suis...
Lucie Dessium.
Que je suis chanteuse musique traditionnelle du Massif Central. Je suis investie dans l'association Les Braillots, CDMDT 63. Chez Les Braillots, on organise beaucoup d'événements et on est un certain nombre à être féministes ou alliées et à se poser des questions, les questions de la place des femmes dans nos programmations. Et quand on a monté le festival Comboros, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait vraiment une attention particulière à ça. Bon voilà, c'était la première fois qu'on montait un gros festival avec beaucoup de programmation extérieure et que c'était l'occasion d'appliquer un peu des principes qui nous sont chers. Enfin, moi j'ai commencé à faire un tableau, à noter dans un tableau tous les groupes avec des femmes musiciennes que je rencontrais, tous les groupes de trad, folk... que je rencontrais, je notais tout dans un tableau. Au départ, c'était vraiment dans la perspective du festival Comboros, de ensuite pouvoir proposer des groupes à la commission programmation du festival. Et puis, le tableau s'est rempli de plus en plus. Et je me suis dit que c'était quand même un outil vachement intéressant. Je n'ai pas partagé ce listing. Et je me suis dit que j'allais plutôt créer une page Facebook. Donc c'est la page Facebook qui actuellement s'appelle musicienne-x tradfolk, le -x étant là pour prendre en compte les personnes appartenant à des minorités de genre, et qui présente chaque semaine deux vidéos de musiciennes solo ou de groupes avec des musiciennes, au moins une musicienne, dans le monde des musiques tradfolk. Et puis c'est comme ça qu'un jour on a été contacté, on recevait régulièrement des messages, je dis on, c'est Clémence, Camille Lenné et moi qui administrons la page, et on recevait régulièrement des messages de personnes qui s'intéressaient à cette démarche, qui voulaient savoir un peu comment on faisait pour sélectionner les groupes qu'on mettait sur la page. On expliquait qu'il n'y avait aucune sélection d'ailleurs, ni sur des critères esthétiques ni rien, c'est juste tous les groupes dont on entendait parler. Et puis il y a plein de gens qui nous ont envoyé des informations, donc le listing a commencé à s'agrandir, à s'étoffer de plus en plus, avec des centaines et des centaines de groupes. Et un jour on a été contacté par Oella Barbedette, qui est harpiste et professeure de musique en Bretagne, et où Ella nous a dit, voilà, nous en Bretagne, on est un petit groupe de gens qui nous sommes aussi reliés avec le mouvement HF Bretagne, et on a commencé à réfléchir sur ces questions de la place des femmes dans les musiques crades. Et vous, qui êtes-vous ? Et c'était marrant parce qu'on faisait cette page de manière anonyme, mais Ella, on la connaissait. Donc on a dit, hey, coucou Ella, c'est nous. Et on s'est dit, bah tiens, il faut qu'on se fasse une visio et qu'on discute de tout ça ensemble. Et c'est comme ça qu'est né, pour la première fois, l'embryon du collectif anti-sexisme trad, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et qui est devenu maintenant, enfin là on en est à appeler ça le réseau anti-sexisme trad.
On continue de discuter de ça avec les copines, à la buvette, beaucoup, de se dire que...
Camille l'aînée.
Qu'on est un peu vénère, qu'on continue d'entendre des copines à qui il arrive des trucs pas cool par rapport à leur mémoire, par rapport à leur expérience sur scène de violence, plus ou moins, de publics qui ont des remarques complètement déplacées. Et c'est très régulièrement qu'à la buvette, on fait la colère ensemble en râlant, quoi, en disant qu'on n'est pas contente et que ça fait chier et qu'on aimerait bien trouver des moyens de faire des trucs avec ça.
On a réalisé un comptage, on a compté le nombre de femmes et d'hommes sur les festivals de l'été 2022. Donc il y a un risque d'erreur, hein, qu'on assume, parce que y a des gens qu'on pourrait mégenrer, dont on pourrait se méprendre sur leur genre, par exemple si c'est des personnes trans ou non-binaires ou que sais-je. Voilà, on a assumé le risque d'erreur en se disant que de toute façon ça ne changerait pas réellement les statistiques. C'était très bien, on a fait ça collectivement avec beaucoup de membres du réseau antisexisme trad, et puis on a affiché ça sur les festivals, ça a beaucoup fait parler cet été. Bon, suite à ça, déjà beaucoup de gens se sont rapprochés du collectif, enfin du réseau, ont eu envie d'en faire partie aussi parce que c'est des gens que ces questions-là intéressaient. Ça a donné lieu à plein de discussions et pour une fois le sujet a été mis sur la table et a été longuement débattu par plein de gens dans plein d'assos, et je sais que ça a eu des répercussions, y compris chez des gens plutôt conservateurs et qui étaient assez réticents avec la démarche. Ils ont eu des conversations qu'ils n'avaient jamais eues avant. Et peut-être que ça va contribuer à faire changer les mentalités aussi, de voir la réalité. Puisqu'on avait mis aucun message militant, hein. On avait juste mis les statistiques. C'était marrant de voir comment la simple exposition des faits était vécue comme une violence par des hommes. Oui, c'est normal, en même temps, c'est pas joli à voir. Il y a des gens qui nous ont dit c'est violent, vous auriez dû nous demander l'autorisation avant d'afficher. C'est tout.
D'un coup, à commencer à se poser des questions là-dessus, tu vois les dysfonctionnements partout. Dans l'endroit et le milieu que je considère comme mon milieu de naissance et familial, quoi. C'est mon milieu d'évolution principale. Le milieu des musiques trad, quand j'ai commencé à le regarder avec ces questionnements-là, waouh, ça fait mal un peu. Ça fait mal, et puis tout ce truc dont je parlais, de syndrome de l'imposteur des meufs, il m'a paru encore plus criant, qu'il y a un truc de... C'est quand même un peu rigolo que la plupart des mecs, ils ont pas ce genre de truc. La plupart des mecs musiciens, ils ont moins ça. Comment de voir que les meufs, elles passent leur temps à enchaîner les formations musicales avant de s'autoriser à monter sur scène, là où des gars à 14 ans, ils sont intermittents du spectacle quasiment, et ça pose de problème à personne, et... Comment ils acquièrent cette confiance-là ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi il n'y a pas la même confiance aussi présente chez la plupart des nanas ? Merde ! Là où j'avais l'impression que mon milieu, il était bisounours, il était vachement bien sur toutes les questions d'ouverture, nanana, bon, j'en reviens aussi.
Il y a aussi comment se mettre en réseau aussi en tant que femme artiste et technicienne pour créer des réseaux de solidarité entre nous, puisque en réalité, le monde... des musiques traditionnelles comme plein d'autres milieux, évidemment, c'est quand même beaucoup un réseau d'hommes qui se tiennent par la main et qui se favorisent les uns les autres de manière tout à fait inconsciente, qui sont d'ailleurs pour la plupart des gens extrêmement sympathiques et qui ne sont pas, je veux dire, officiellement misogynes, qui disent pas « Ah non, mais les femmes jouent moins bien que les hommes » ou des trucs comme ça. Hein. C'est extrêmement rare d'entendre des propos comme ça. Ça existe, évidemment, mais la plupart des copains musiciens qu'on a ne sont pas des gens qui raisonnent de cette manière-là. C'est pas pour ça qu'ils montent pas des groupes avec des femmes. Évidemment, on sait très bien que les mécaniques en place sont plus souterraines et c'est des composantes culturelles dont on n'a pas forcément conscience. Mais en tout cas, ouais, voilà, il y a cette possibilité de se mettre en réseau et de se favoriser aussi, nous, entre femmes. C'est pas quelque chose qui est forcément accepté comme discours. Et pourtant, c'est une réalité qui existe vraiment du côté des hommes. Le fait de le verbaliser, de dire que nous, on en a besoin. Je sais qu'il y a des gens qui sont critiques, qui ne comprennent pas ça, des hommes, évidemment, qui ne comprennent pas ça. La place des femmes dans les musiques traditionnelles, c'est comme la place des femmes dans la société en général. On est la moitié de l'humanité. Donc, c'est une question qui nous concerne toutes et tous. Ça ne concerne pas que les femmes. Ça concerne tout autant les hommes, de ne pas exclure la moitié de l'humanité ou discriminer la moitié de l'humanité. Donc c'est une question dont on doit s'emparer collectivement. Et c'est un travail constant, rendre ce sujet-là omniprésent, se poser tout le temps la question et le mettre dans beaucoup de sujets de conversation. Faire que ces conversations-là existent en permanence, qu'on puisse plus ignorer les habitudes sexistes du milieu, qu'on s'en rende compte que quand elles émergent, eh ben, elles nous frappent, elles nous soient immédiatement visibles, qu'on ne les considère plus comme des choses allant de soi. Je pense que plus on en parle, plus on en discute, plus ça devient un sujet quotidien, moins on va accepter que ça existe d'une manière, j'ai envie de dire, presque calme. Il y a beaucoup de comportements excluants, discriminants qui existent de manière très souterraine, qui font aucun remous, qui sont juste là et presque invisibles. Bah, il faut les visibiliser. Et on le voit, nous, dans nos cercles. Le sujet est devenu omniprésent et du coup, je sais pas, tous les gars autour de nous, par exemple, maintenant, sont vachement conscients de ça et laissent plus passer des choses qu'ils auraient laissé passer avant. Mais c'est pareil de notre côté. On devient plus exigeant. Et en fait, nos rapports humains entre femmes, entre hommes et femmes, et entre hommes, s'en portent beaucoup mieux.
Je me suis pris la tête avec mes parents là-dessus, sur le féminisme très fort, quoi. Et mon père, il était venu me voir en mode « Putain, mais tu fais chier à toujours râler pour tout, là, voilà, on fait des blagues, ça te plaît pas, t'es relou, quoi, c'est pas facile de relationner avec toi parce que t'es toujours vénère. » Je lui disais, mais en fait, c'est toi qui as fait que je me pose des questions et que je suis vénère. C'est toi qui m'as appris à être en colère par rapport à tous les inégalités. C'est toi qui m'as appris à militer. Tu m'as appris à me poser des questions, je le fais, et donc ça donne ça, alors peut-être ça te plaît pas. Appliqué au milieu trad, pour moi, il y a un truc de... C'est ce milieu qui m'a fait aussi comme ça. Et j'ai envie de lui rendre un truc, de le rendre plus beau par rapport à ce que j'attends, moi, de la vie.
L'annuaire du réseau Antisexisme Trad sera bientôt mis en ligne avec l'aide de la FAMDT. Pour conclure cet épisode, nous vous laissons avec La Crue, à qui nous avons offert une carte blanche pour le podcast.
Le collectif de musiciennes nous offre ici le manifeste de leur création ainsi que l'annonce du printemps.
Au départ, avant la crue, il y a Bosque. Une création musicale qui nous rassemble. 5 musiciennes et une technicienne. C'est une expérience neuve sur pas mal de plans. Très vite, on se sent bien. Pour nous, cette création commence par découvrir ce que ça fait d'être ensemble, de construire un objet commun. On plante le décor comme on plante la forêt.
On botte en touche quant à cette histoire de groupe de filles. Pur hasard, qu'on dit, lors d'une de nos premières discussions qui ouvre les tiroirs et les grands dossiers. Oui, pur hasard, c'est ça qu'il faut répondre et vite passer à autre chose quand on nous pose la question. Dire qu'on en a marre, qu'on voudrait qu'on arrête de nous le répéter sans cesse, qu'on nous voit avant tout comme un groupe, une équipe, un ensemble qui crée de la musique et, s'il le faut, aussi de la réflexion. Sauf qu'on nous laisse jamais tranquilles. Si on insiste là-dessus, on deviendra des féministes qui exagèrent. Si on préfère ne pas en parler, on nous demandera de nous justifier. On enchaîne les résidences, prémices du collectif qui naîtra de cette expérience, et avec elles les anecdotes que l'on consigne, analyse, encaisse.
Il y a ce voisin qui passe nous saluer.
Et vous avez pas eu peur toute seule la nuit ?
Bah, on était 5.
Ah oui, vous étiez toute seule. Si j'avais été plus jeune, je serais montée.
Il y a ce musicien qui nous demande.
Et du coup, vous avez fait exprès de monter un groupe de femmes ?
Et qui n'en démord pas malgré nos tentatives de réponse.
Mais moi, je sais pourquoi vous avez monté un groupe de femmes. C'est pour les subventions spéciales femmes.
Il y a ce journaliste qui nous demande pourquoi un groupe de femmes.
Vous n'aviez pas d'hommes sous la main ?
Il faut se rendre à l'évidence, qu'on le veuille ou non, on est un groupe de filles. Et on restera un groupe de filles avant tout.
Alors on ne pouvait pas questionner interminablement nos féminismes, notre place dans le milieu musical, les enjeux des relations entre femmes, entre hommes et femmes, et s'arrêter là. Pur hasard, vraiment.
Arrive le moment de déplier le constat, pourtant simple, qui finit de nous brûler les lèvres. Même si entre nous déjà, on le repousse, on pinaille, on n'est pas d'accord tout de suite. On se dit que notre choix de faire de la musique ensemble dépasse la musique. Au même titre que les hommes ont toujours fait des groupes d'hommes, notre envie et facilité à nous constituer en équipe n'est ni le fruit de la nature, ni celui du hasard. La fluidité de nos relations et l'évidente force de nos affinités s'expliquent par de nombreux éléments, issus de nos vécus et de nos constructions sociales.
On pourrait raconter ces inestimables heures que l'on passe à discuter, à disséquer des situations sous tous les points de vue, à partager nos émotions, nos peurs, nos fragilités et nos intimités. On pourrait parler de ces questionnements sans fin que l'on se pose en faisant des tours et des détours sur nos légitimités, nos sensibilités.
Qu'est-ce qui nous touche ? Comment on évolue ? Est-ce qu'on est moins sensible, moins émue, plus exigeante, plus intransigeante ? Est-ce qu'on est à l'aise avec le regard des autres sur ce que l'on fait soi-même ? Comment on se construit des liens en se différenciant de ce que d'autres font ?
On pourrait évoquer cette tendance à se préoccuper de l'état émotionnel des autres, se penchant pour la remise en question, cette peur attenante d'avoir tort, de ne pas être assez pertinente, ou bien de s'être mal comportée et de s'en assurer immédiatement vis-à-vis des personnes qui nous entourent. En somme, on pourrait parler de cet investissement de chacune mis à la solde du collectif et du groupe affinitaire qui se crée, à force de ce partage d'expériences.
Mais au-delà encore des manières d'être ensemble, c'est le contenu de ce qui peut facilement être exprimé et compris qui est si précieux. Être ensemble, c'est pouvoir dire la discrimination, les humiliations, les violences, les rancœurs si nombreuses. C'est pouvoir se défaire tant bien que mal de cette présomption d'incompétence qui pèse sur nous depuis toujours. C'est déconstruire encore et encore notre habitude si ancrée de se placer en concurrence avec les autres femmes. C'est se construire un refuge au sein duquel on se sent en sécurité. C'est pouvoir légitimer nos ressentis. C'est se solidifier entre pairs pour exister en dehors.
Alors non, pas de pur hasard, comme toujours quand il s'agit de se poser la question de nos relations entre hommes et femmes dans la société. Alors oui, cette expérience qui n'était pas pensée comme une expérience en mixité choisie ou en non-mixité, on se retrouve à la vivre en appréciant pleinement sa valeur et son efficacité.
La pratique de la non-mixité est tout simplement la conséquence de la théorie de l'auto-émancipation. L'auto-émancipation, c'est la lutte par les opprimés pour les opprimés. Cette idée simple, il semble que chaque génération politique doive la redécouvrir.
Christine Delphi.
L'émanation de ce cheminement aboutira pour nous à la création du collectif La Crue. Quand on nous demande « c'est quoi La Crue ?», on répond à un collectif de femmes, musiciennes, amies, qui s'organisent, qui mutualisent des moyens, des ressources, afin de faire face, entre autres, à la discrimination qu'elles subissent en tant que femmes dans le milieu du spectacle vivant. Ce sont des femmes solidaires entre elles, qui portent des valeurs, des projets ensemble et qui se réunissent avant tout pour bâtir une identité artistique forte.
Aux personnes qui ne comprennent pas, nous répondrons que la non-mixité, avant d'être un choix, est avant tout subie, parce qu'elle est un état de fait, une imposition du système patriarcal qui exclut les femmes par principe, en les considérant comme ne faisant pas partie de la société politique.
Nous répondrons que nous n'avons pas choisi d'être perçues comme un groupe de femmes, mais que nous n'avons pas eu le privilège de l'oublier.
Nous répondrons que nous ne croyons pas à l'argument de la compétence brandi face à la dénonciation de l'inégalité des chances.
Nous répondrons que la véritable discrimination positive est celle qui est à l'œuvre à l'encontre des femmes depuis toujours.
La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste important désignerait une femme incompétente,
a dit Françoise Giroud.
Nous répondrons que la domination masculine trouve ses racines dans tous les milieux, y compris ceux qui se disent les plus progressistes. Voilà La Crue en liesse, et c'est pour longtemps.
Oui, la compagnie, permettez que j'y chante. Permettez que j'y chante pour toutes les jeunes gens qui sont ici présents. Avant fait alliance hier, y a pas longtemps.
Avant fait alliance hier, y a pas longtemps.
Alliance y a pas longtemps. Alliance y a pas longtemps.
Alliance y a pas longtemps. Alliance y a pas longtemps.
Avons marché ensemble l'an des lidettes. Avons marché ensemble pendant 2 ans.
Avons marché ensemble l'an des lidettes. Avons marché ensemble pendant 2 ans.
Côte à côte c'est pour longtemps, côte à côte c'est pour longtemps.
Côte à côte c'est pour longtemps, côte à côte c'est pour longtemps.
Nous sommes arrivés ensemble l'an des lidettes, sommes arrivés ensemble au chambardement.
Sommes arrivés ensemble l'an des lidettes, sommes arrivés ensemble au chambardement.
Dans la ronde c'est pour longtemps, dans la ronde c'est pour longtemps.
Dans la ronde c'est pour longtemps, dans la ronde c'est pour longtemps.
Avons chanté la nuit l'an des lidettes, avons chanté la nuit sans nos amants.
Avons chanté la nuit l'an des lidettes, avons chanté la nuit sans nos amants.
La rivière en débordement, la rivière en débordement.
La rivière en débordement, la rivière en débordement.
Dans son flot nous emmène l'an des lidettes, dans son flot nous emmène assurément.
Dans son flot nous emmène l'an des lidettes. Dans son flot nous emmène rassurément.
L'eau qui coule va vers l'avant, l'eau qui coule va vers l'avant.
L'eau qui coule va vers l'avant, l'eau qui coule va vers l'avant.
Elle charrie des promesses, l'an des lidettes. Voilà la crue en liesse et le printemps.
Elle charrie des promesses, l'an des lidettes. Voilà la crue en liesse et le printemps.
Le collectif de La Crue est composé de Clémence Cognet, Lisa Langlois, Anaëlle Marsollier, Noélie Nioulou, Mathilde Spini, Marthe Touret, Elisa Trébouville, Marion Debat, Marion Esnaud, Péroline Barbet, Léa Bardiot et Flore Brasquies. Leur carte blanche a été réalisée par Anaëlle Marsollier et Marthe Touret, avec des extraits d'un discours de Marion Debat, présidente de La Crue, et d'un article de Christine Delphi, « La non-mixité, une nécessité politique ». C'était « Entre nous, cette joie d'être ensemble ». Quatrième épisode de l'autre tradition, ce que les musiques traditionnelles doivent aux femmes. Un podcast de la FMDT réalisé par Anaïs Vaillant. Avec Maïder Martineau, Lolita Belmonteil-Airal, Valérie Imbert, Stérène Diridolou, Marine Lavigne, Perrine Bourrel, Caroline Dufaux, Lila Freiss, Marie-Josée Justamont, Marie Delorme, Perrine Lagru, Noélie Nioulou, Pauline Villerval, Charlotte Espiosas, Hyacinthe Ravet, Lucie Dessiaume, Camille Lenné et le collectif de la Crue. Vous y avez aussi entendu des extraits de l'article « Musique et genre en sociologie » de Cécile Prévost-Thomas et Hyacinthe Ravet, publié dans la revue Clio. Et de l'article d'Yves Rébaud, « De nouveaux modèles de virilité, musique actuelle et culture urbaine », publié dans l'ouvrage « Masculinité, état des lieux » de Daniel Welser-Lang et Chantal Zaouche-Gaudron. Vous avez entendu les musiques de Ocho, Les Dames de Nage, le duo Diridolou-Lavigne, Coucagne, Les Fémoustés, Chaban, Oella Barbedette, Bosque, Garenne, La Crue, et Les Violonneuses.
Et pour m'accompagner à la voix, c'était Léa Chiquitou.
Anaïs et la FMDT vous donnent rendez-vous très bientôt pour le cinquième et dernier épisode de L'Autre Tradition.